Europe 1. Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, le bal des sorciers. Nous avons laissé Catherine de Médicis et Henri, son mari, au moment de leur rencontre avec Nostradamus. Le mage a prédit à Henri II une mort affreuse lors d'un tournoi. Pour Henri, ce n'est qu'une inquiétude parmi d'autres, mais pour Catherine, cette prophétie fait l'effet d'un coup de poignard. Nostradamus est donc à présent conseiller du roi comme médecin astrologue. Au XVIe siècle, en effet, on croit fermement à l'influence des astres. Les mathématiques sont enseignées en même temps que l'astrologie. Le monde physique n'est pas séparé du monde spirituel. Les mondes visibles et invisibles sont indissociables. Le maître mot de l'époque est alors « tout est dans un et un est dans tout ». L'homme, comme l'univers, est composé de trois parties. La tête, siège de l'esprit, le cœur, siège de l'âme et le ventre, siège de la vie matérielle. Tout cela répond aux trois éléments « ciel, terre et eau » qui composent l'univers. La famille elle-même, composée du père, de la mère et de l'enfant, est conçue comme une trinité qui fait écho à la trinité soleil, planète, satellite. Cette conception du monde explique l'inquiétude constante de ces hommes et femmes du XVIe siècle. On prête l'oreille à tous les signes. On s'inquiète du temps qu'il fait, des comètes qui passent dans le ciel, des étoiles, des épidémies, comme du prolongement des vicissitudes de notre propre corps. La prolifération des sorcières et des maléfices provoque en outre une forme de paranoïa qui gagne toutes les couches de la société. Qu'un mage ait prédit que tel ou tel mourrait d'un coup de poignard, et voilà qu'on se méfie de tout homme qui tient un couteau, même si celui-ci ne fait que découper une endive ou un lapin. En 1555, Catherine de Médicis fait interdire les poches sur les vêtements sous peine de mort. Cependant, la quarantaine approche pour Henri II. Qu'en sera-t-il des sinistres prédictions de Nostradamus et de Gaudry? Si Henri II est quelque peu sceptique face aux astrologues, il sait que sa femme les consulte sans discontinuer. La présence à la cour d'une multitude de mages n'est pas sans interpeller ceux des protestants les plus enclins à condamner les pratiques occultes. C'est Anne de Bourg, conseiller du roi chancelier, qui va, peu de temps avant la mort d'Henri II, provoquer la colère du roi dans un discours resté célèbre. Nous sommes le 10 juin 1559. Devant le Parlement, Anne Dubourg se fait la voix de tous les sceptiques et s'exclame
« Il est étrange de voir chaque jour à la cour de France des crimes se dérouler sous la forme de superstitions les plus diverses, astrologie, sorcellerie, magie, à côté des blasphèmes, adultères, débauches horribles et parjures, crimes qui se commettent impunément face au ciel. »
C'est ainsi qu'on voit sa cour. Henri II est fou de rage. Il a compris l'allusion directe aux pratiques de Catherine.
« Je veux voir de mes deux yeux brûler Anne Dubourg. »
Cependant, on s'apprête à célébrer le mariage d'Élisabeth de France, fille d'Henri II et de Catherine, avec Philippe II d'Espagne. Les noces auront lieu dans deux semaines, le 30 juin, dans la rue Saint-Antoine à Paris. Durant cette fête, entre autres réjouissances, se déroulera un spectacle extraordinaire auquel sera invitée toute la noblesse de France et d'Espagne. Un grand tournoi dont l'un des champions sera le roi de France en personne, Henri II. Le jour venu, à 9h du matin, Henri II fait sonner l'ouverture du tournoi. Après le déjeuner de midi, il annonce sa candidature comme champion. Monsieur de Boisy, grand écuyer de France, lui apporte ses armes. Puis il demande à ce qu'on le coiffe de son aume. Le gentilhomme chargé de l'opération, comme toute la cour, connaît bien sûr la sinistre prédiction qui plane sur le funeste tournoi. Il glisse à l'oreille du roi.
« Sire, je n'ai de ma vie fait chose plus à contre-cœur que celle-ci. »
Catherine de Médicis, livide, ne quitte pas son époux des yeux. On exécute deux passes sans incident. Puis à la troisième, Henri demande à affronter le comte de Montgomery à titre de revanche sur la dernière passe qu'il a perdue. Affolé, l'écuyer d'Henri le somme de renoncer à l'entreprise.
« Pour l'amour de la reine majesté, ne courez pas ce risque. »
Henri II lui répond.
« C'est précisément pour l'amour d'elle que je veux courir cette lance. »
Catherine, plus morte que vive, est pétrifiée. La nuit précédente, elle a rêvé la mort du roi. Son époux lance sa monture et c'est le drame. La lance de Montgomery se brise sous le haume d'Henri. La pointe de l'arme a pénétré par l'œil du roi ressortant par l'oreille. On se précipite autour du blessé. Le malheureux va agoniser 10 jours. Il meurt le 10 juillet après avoir ordonné dans un dernier souffle qu'on laisse Montgomery tranquille. Catherine, quoique vivante, est à présent morte intérieurement. Elle n'a pas l'intention d'obéir aux dernières volontés du roi. D'autant que parmi les prophéties de Nostradamus, Catherine a lu un quatrain qui laisse entrevoir comment mourra le meurtrier de son mari. Nostradamus prédit que Montgomery sera arrêté au sceau du lit et exécuté, et de fait, c'est le sort que Catherine de Médicis réservera à Montgomery. Les années passent, et c'est près de 15 ans après le drame que le malheureux Montgomery, le 25 juin 1574, sera en effet tiré de son lit la nuit pour être conduit place de Grève, décapité et découpé en 4 morceaux. Catherine s'enferme dans un silence total. Elle se revêt d'habits de deuil qu'elle ne quittera plus jamais. Elle change aussi son blason, y apposant une lance brisée avec ces mots « Là sont mes larmes, ici est ma douleur ». Elle fait appeler auprès d'elle un astrologue de renom qu'elle associe à Nostradamus, Côme Ruggieri. Ce dernier lui fait porter des talismans sur lesquels figure une étoile entourée d'un serpent se mordant la queue. Elle est à présent absolument convaincue de la véracité des prédictions formulées par ses astrologues. Et puisque Dieu n'a pas entendu les supplications qu'elle a adressées des mois durant pour conjurer le sort qui pesait sur son époux, celle qui auparavant avait le regard tourné vers le ciel, va à présent le baisser jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Nostradamus, Ruggieri et Simeoni sont consultés chaque jour. Leurs prédictions se révèlent la plupart du temps exactes. On prédit à Catherine la mort de son fils aîné François II. Et l'enfant meurt dans d'atroces souffrances que n'ont pas apaisées les séances de magie conjuratoire organisées par Catherine au milieu des jeûnes et des prières. En France, le climat religieux est de plus en plus délétère. Protestants et catholiques montrent une volonté croissante d'en découdre. Catherine consulte ses astrologues pour les questions politiques, pour les affaires privées. Son fils aîné mort, c'est Charles qui est couronné roi sous le nom de Charles IX. Catherine prépare le sacre de son fils à Reims. Elle consulte Simeoni. Catastrophe. Ce dernier lui annonce une conspiration qui éclatera précisément à Reims pendant la cérémonie. Elle en tombe malade, se croit empoisonnée. Finalement, elle décide que le sacre doit se faire malgré tout, mais en comité restreint. Les nouvelles prédictions ne la rassurent guère.
Ayant donné un coup d'œil à la révolution de cette année, je trouve que la Lune est arrivée à l'emplacement de Saturne, Saturne occupant celui du Soleil, du Lion et de Mercure. Mars, uni à la Lune, a changé du dragon et du lion l'aspect quadrilatère de la Lune, de sorte que cette année, il résulte de grands ennuis à cause de la religion.
En mai 1561, Charles IX est couronné. L'enfant, à bout de nerfs, est en larmes du début à la fin de la cérémonie. L'amiral de Coligny et le prince de Condé, qui ne sont pas hommes à mettre les pieds dans un nid de vipères, se sont fait porter pâle. Pour Catherine, chaque événement marquant vient confirmer les prédictions de ses astrologues. Et s'ils se contredisent, eh bien, Elle retient, une fois l'événement passé, la prédiction qui correspondait à la réalité observée. Nombreux sont les historiens qui ont insisté sur sa modération dans les affaires religieuses. Les grandes initiatives de paix avec les protestants sont en effet toutes de sa décision propre. Le colloque de Poissy, la paix d'Amboise, la paix de Saint-Germain-en-Laye montrent de sa part une vraie volonté de conciliation. Mais l'image publique de cette reine, pourtant entachée de l'atroce massacre de la Saint-Barthélemy, où son implication réelle reste trouble, s'efface quand on se prend à scruter ses préoccupations quotidiennes. Derrière la reine réfléchie, diplomate, se cache une femme qu'absorbe les préoccupations d'outre-tombe. Au château de Chaumont-sur-Loire, elle se livre, en présence de Nostradamus ou de Ruggieri, à d'interminables séances de magie. Son mari et son fils aîné sont morts. Elle veut connaître le sort que subiront ses autres enfants, coûte que coûte. Les séances ont lieu dans une chambre sans décoration. Nostradamus a placé sur la cheminée les fioles contenant les mixtures nécessaires au sortilège. Sur une plaque d'acier, il écrit les quatre noms de Dieu avec du sang de pigeon mâle, Jéhovah, Elohim, Mitraton, Adonai.
À droite, sous la hotte de la cheminée, sont placés l'atanor alchimique, l'œuf philosophique, les creusets et l'alambic. Sur la table de travail, au milieu des livres, de l'encrier, de la plume, du couteau et des parchemins destinés au pacte, une tête de mort. Dans un encensoir, brûlent la menthe et le palma Christi pour chasser les fantômes. Au sol, un cercle magique. Sur le mur, un miroir. Dans ce miroir, la reine, désireuse de connaître le sort de ses enfants, les voit apparaître l'un après l'autre, chacun faisant le tour d'une salle autant de fois que d'années qu'il devait régner.
Mais ses prédictions ne suffisent plus à Catherine. Elle veut des certitudes. Dès lors, l'entreprise ne connaît plus de frein. On dessine sur le sol un double cercle magique, puis on y dispose un crâne, un tibia, une lampe, un chat endormi par hypnose. On appelle un esprit nommé Anaël, qui apparaît sous la forme d'un enfant blond. La vision se précise. Dans le miroir magique, Catherine, debout au milieu du cercle, voit clairement ses trois fils. François II fait un tour seulement, Charles IX en fait 14 et Henri III 15. Elle est épouvantée. Elle voit alors Henri de Bourbon, le futur Henri IV, mari de sa fille Marguerite, faire 21 tours. Catherine est néanmoins satisfaite. Ses enfants vont régner. Les mois passant, elle ne sort de son silence que pour infirmer ou confirmer une prédiction. Un jour qu'on lui apporte la nouvelle d'une victoire militaire, elle lance d'une voix agacée « je sais, imbécile !» Le massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, ne provoque en elle aucune réaction ostentatoire, et c'est sans doute ce silence qui a contribué à faire d'elle l'unique responsable de la tragédie. Le fait est qu'en lisant dans ses diableries, Catherine n'apparaît pas comme une reine qui communique, une reine qui échange avec ses contemporains. Celle qui déclare qu'un homme mort, c'est un ennemi en moins, n'hésite pas, selon certains historiens, à faire boire du poison à ses rivaux. Elle serait même la première, bien avant la sorcière de Blanche-Neige, à empoisonner les pommes pour en finir avec tel ou tel invité. Durant les jours de la Saint-Barthélemy, on la représente examinant le sexe des cadavres dénudés. Elle aurait fait envoyer les gros chez les apothicaires afin que leur graisse serve aux préparations pharmaceutiques. Ces heures sinistres vont achever de déranger l'esprit de Catherine de Médicis. Elle soupçonne sans cesse quelque complot. Lorsque Charles IX tombe malade, elle fait faire une enquête. On découvre des coupables qui, sous la torture, avouent avoir concocté des poisons pour tuer le roi. On saisit des manuels de magie noire, des talismans maléfiques. Rapidement, il est établi que c'est Côme Ruggieri lui-même, astrologue de la reine, qui a piqué des poupées pour envoûter Charles IX. Catherine va épargner Ruggieri, mais elle envoie au supplice les complices présumés du mage. En vain, la maladie de Charles IX continue de progresser. En désespoir de cause, Catherine, si l'on en croit la chronique, se livre à un dernier rituel odieux entre tous. Lors d'une séance appelée « céphalomantie », il s'agit de faire parler une tête d'enfant fraîchement coupée. Dans le plus grand secret, avec la complicité de ses mages, elle fait enlever un enfant juif de 6 ans. Et le 28 mai 1574, à Vincennes, dans une tour qui portera jusqu'au XIXe siècle le nom de « Tour du diable », Catherine de Médicis, accompagnée de son fils le roi Charles IX, assiste à l'horrible rituel opéré par un moine jacobin, apostat, c'est-à-dire un moine qui a renié le Christ. On implore Notre-Dame des ténèbres. On trace 3 cercles autour de l'autel.
Renversant une croix, l'officiant piétina cet emblème chrétien en prononçant des menaces, des blasphèmes et des malédictions à l'adresse du Christ. Puis il empoigna l'enfant qui criait, le coucha brutalement sur l'autel et, s'emparant du poignard rituel d'un seul coup, trancha la gorge de l'innocente victime.
Les documents d'époque rapportent que la tête, une fois posée sur l'autel, ne prononce que quelques mots. « Vim patior », ce qui signifie « j'y suis forcé ». Catherine, qui s'était jurée de n'obtenir que des paroles concrètes, est hagarde. Charles IX, au bord de l'évanouissement, répète à mi-voix
« Éloignez cette tête, éloignez cette tête !»
Quelle est la part de réalité dans ces affreux récits ? Le fait est que les chroniques contemporaines de Catherine de Médicis se contredisent souvent, selon que l'auteur est protestant ou catholique. Les deux parties s'accordent pourtant sur une anecdote. Catherine de Médicis fuyait comme la peste tout ce qui concernait Saint-Germain, car Ruggieri lui avait dit lors de leur première rencontre qu'elle devait se méfier à tout prix de Saint-Germain. Elle avait alors aussitôt quitté le Louvre, le palais se trouvant en effet sur la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois. Elle avait aussi mis un point d'honneur à ne jamais mettre les pieds à Saint-Germain-en-Laye. Mais le 5 janvier 1589, le jour de sa mort, alors qu'elle se confesse, elle demande son nom au prêtre qui lui administre les derniers sacrements. Il lui dit
« Je suis abbé de Saint-Germain ».
Alors, dans un dernier râle, Catherine de Médicis s'écria « Malheur à moi, je suis morte ». C'est la fin de ce double épisode consacré à Catherine de Médicis, reine et sorcière. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook « Au cœur de l'histoire ». Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Daviau. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.